Je me disais ce matin, ça devient un privilège maintenant pour moi de vous apporter le message, une habitude que j'ai toujours appréciée. J'ouvre bien volontiers la parole de Dieu avec vous pour voir ce que le Seigneur voudrait nous parler ce matin. Pour vous dire à combien j'ai complètement perdu mes habitudes, j'ai même pas envoyé le PowerPoint. Donc je vais demander à quelqu'un dans l'assemblée qui a une Bible de nous faire la lecture de l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, les versets 1 à 6. 6, 1 à 6. Matthieu 6, les versets 1 à 6. Qui voudrait nous faire la lecture à haute voix? Matthieu chapitre 11, versets 1 à 6.
Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples. Ils partirent de là, enseigner et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples et lui demandèrent: es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous attendre un autre? Et Jésus leur répondit: retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi.
Merci. Heureux celui ou celle qui ne perdra pas sa foi à cause de moi. Donc j'ai choisi comme titre: Jésus, tu me fais perdre la foi. Je suppose que je suis le seul pasteur qui probablement choisirait un tel titre, parce que c'est pas une exhortation, c'est plutôt une forme de frustration, de l'incompréhension totale de ce qu'on peut vivre, des choses qu'on peut pas s'expliquer et des situations dans lesquelles on est perdu. Jésus, tu me fais perdre la foi. Tout le monde sait, vous avez fait l'expérience. Les points de vue que nous avons évoluent sur la vie ou sur les personnes au fur et à mesure qu'on avance nous-mêmes en âge. Vous l'avez remarqué? Après une maladie, on regarde la vie ou la santé d'une nouvelle façon. Vous êtes d'accord? Arrivé à l'âge adulte, on ne considère plus ses parents comme on était enfant. On change de regard sur des amis après qu'on a fait l'expérience de leur ingratitude ou de leur fidélité. On change de regard. Au milieu de notre histoire qui concerne Jean le Baptiste, le texte nous fait assister à un changement de point de vue qu'a Jean-Baptiste concernant Jésus. Jean-Baptiste, lorsqu'il était au désert pour annoncer l'avenue proche du royaume de Dieu, quand il était au désert, il a ouvert les portes de l'avenir, de ce qui sera l'avenir, ce qui viendra très prochainement. C'est l'heure, on devrait être même pressé. Croyez en la bonne nouvelle, car, qu'est-ce qui est la raison? Le royaume de Dieu va s'installer sous peu. Sous peu. Il a vu Jésus de Nazareth rejoindre les personnes qui sont venues au bord du jardin, là où il baptisait. Et ce Jésus de Nazareth, qui était un cousin, quelqu'un de sa famille, l'a demandé lui-même d'être baptisé. Pourtant, Jean savait que c'était le Christ à venir. C'était le Messie. D'ailleurs, il avait reconnu publiquement: c'est l'envoyé de Dieu qui viendra. Et moi, je suis même pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. Il avait entendu, il était témoin qu'une voix descendait du ciel après le baptême de Jésus, et Dieu lui-même disait à la foule entière et à Jean-Baptiste: regardez, celui-là, c'est mon fils. et y fait tout mon plaisir. Le lendemain, Jean disait à ses propres disciples, « Voici l'agneau de Dieu, allez le suivre. » Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le chanteur français Guy Béard? Il a chanté dans une chanson, « Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. » Le roi Hérode, roi par la grâce de l'Empire romain qui occupait la Palestine, le roi Hérode, Jean-Baptiste l'avait vertement critiqué à cause de Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que Hérode a épousée. Et publiquement, Jean le Baptiste lui avait dit, il n'est pas permis d'avoir pour femme épouse, pour avoir comme femme l'épouse de ton frère. Voilà. Marc chapitre 6, versets 17 et 18. Et la réaction du roi Hérode, ouais, on l'encaissait, quoi. Il y a une voix de trop qui parle. En plus, des voix qui critiquent sont pas les bienvenues. Donc, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Donc, Jean le Baptiste se trouve en prison. Il ne pouvait guère nourrir l'illusion qu'il pouvait sortir. C'était l'exécution qu'il attendait dans les plus brefs délais. Donc, notre scène se joue en prison. En prison, Jean le Baptiste entendait parler de Jésus qui, visiblement, a pris la place du prophète qu'il était. Et apparemment, c'est le même message. Changer de vie. Changer d'attitude de vie. Car le royaume est proche. Sauf, Jésus ne fait pas à la manière de Jean-Baptiste. Il ne le fait pas comme moi je l'aurais fait. Il entend parler de lui, lui qu'il reconnaissait en tant que Messie, mais il n'est pas d'accord sur les manières par lesquelles Jésus prend la succession. Finalement, prend la place de celui que Jean-Baptiste lui-même avait annoncé comme Messie. Comme nous le savons tous, les points de vue évoluent sur la vie ou sur les personnes. Au fur et à mesure, selon les situations que nous traversons, surtout quand les situations sont dures, que nous traversons, notre regard change. La question est permise à poser, est-ce que Jean-Baptiste s'apprêtait à modifier son regard qu'il avait sur Jésus. Il ne fait pas comme moi je l'aurais fait. Pour en avoir le cœur net, il réussit à envoyer deux de ses propres disciples pour qu'ils aillent poser la question à Jésus. Et la question, elle exprime toutes ses inquiétudes, ses doutes, et aussi son mécontentement. Voilà la question. Jésus, est-ce que tu es celui qui devrait venir? Ou si on voudrait le poser autrement, Jésus, est-ce que tu es vraiment le Messie qu'on a tous attendu? Ou est-ce qu'on devrait encore attendre un autre? Vous voyez, celui qui venait de proclamer à la fin de son ministère qu'il n'y a pas de doute. Jésus de Nazareth est l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. En Jésus, le Messie est venu. L'envoyé de Dieu est venu dans ce monde. Où est-ce que nous devons attendre un autre? Dans une conversation sur la foi en général, la foi en Dieu, une femme samaritaine disait un jour à Jésus au bord d'un puits qu'elle attendait elle-même aussi quelqu'un qui devait venir. Et quand il serait venu, il va annoncer la parole de Dieu. C'était l'époque. D'ailleurs, Dieu a envoyé le prophète pour dire, attendez-vous à ce que celui vienne qui vous est annoncé. En Jean chapitre 4, verset 25, cette femme a dit, et on va le reconnaître par des signes miraculeux, par sa façon de se comporter, de nous parler. Quand il sera venu, il n'y aura plus de doute. On le saura quand il sera venu. Et effectivement, elle a vu des signes miraculeux que Jésus faisait. Les gens se demandaient, cet homme, mais il a l'air d'être vraiment le Messie, le prophète qui devait venir dans ce monde. Jean chapitre 6, verset 14. Donc Jésus, est-ce que tu es vraiment celui qu'on doit attendre? Est-ce que tu es celui qui devait venir? Rappelons-nous l'urgence dans laquelle Jean-Baptiste a annoncé son message. Changez de vie aujourd'hui, car demain on ne sera pas. Peut-être le royaume de Dieu sera déjà là et ça sera trop tard pour vous repentir, de changer de vie. Au lieu d'attendre le jour de jugement de Dieu, changez de vie aujourd'hui pour être prêt et purifié, pour rentrer dans le royaume. Dès que le royaume arrive et l'heure presse. Son message était radical. Le temps presse. Peut-être le temps sera le dernier où tu auras la chance de te repentir, de changer de vie. Jean le Baptiste semble d'avoir attendu de manière imminente à ce que le royaume vienne. Il était convaincu qu'il prêche le dernier. Et puis le royaume vienne. Il était dans l'attente immédiate, comme ce sera plus tard l'apôtre Paul qui disait, Jésus mort et ressuscité, il va revenir. Et tu dis, oui, je le crois aussi, il va revenir. Mais vous savez ce que l'apôtre Paul et les premiers chrétiens pensaient? Mais qu'ils reviennent de leur vivant. L'épître aux Thessaloniciens traite la grande question qui inquiète. Les premiers chrétiens dans l'église meurent. Et Jésus n'est toujours pas venu. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que nous devons encore attendre le retour de Jésus? Maintenant que sur notre compréhension du temps, des circonstances, telles que nous l'avons imaginé, les choses ne se passent pas telles que nous l'avons cru. Vous pouvez vous imaginer à quel point l'Église était déstabilisée. Et Jean-Baptiste bien avant elle. Mais le voilà en prison, devant faire face à la mort. Les événements attendus commencent à tarder. Jésus est venu. Mais le royaume de Dieu n'est pas venu. Comment ça se fait que celui qui devrait venir n'emmène pas avec lui et l'instaure? Et l'instaure le royaume de Dieu. Je me suis imaginé à ce que Jésus vienne, il renverse les pouvoirs, il installe le pouvoir de Dieu et le royaume de Dieu sera visible pour chacun. Et Jésus est venu. Rien n'a changé. En plus, il ne fait pas Jésus dans la même radicalité comme lui. Jean-Baptiste, il s'est séparé, il est allé en désert, là où la voix portait comme seule voix qui ne se mélangeait pas avec la vie courante de la métropole. Si on voulait aller voir le prophète, il fallait aller vers lui. Comment fait Jésus? Mais les gens viennent vers lui, mais lui, il ne bouge pas. Il se promène dans un périmètre en Galilée, On ne pourrait pas dire qu'il parcourt le pays. Oui, il a du succès. Mais il le fait d'une manière différente. Et pas comme moi, je me suis imaginé. J'ai choisi ce texte parce que, en tant qu'Église, on peut vivre ce temps actuel aussi comme temps de changement, de transition. Et on se demande, mais comment ça va continuer? Et ces questions sont permises. Oui, toute forme de changement est un temps d'instabilité. Et ça peut aller jusqu'à même douter le pire. Et même douter le pire. C'est pas comme ça que je me suis imaginé le Messie, se disait Jean-Baptiste en prison. Oui, on lui raconte que Jésus de Nazareth rend la vue aux aveugles, fait entendre de nouveau les sourds, relève les boiteux, et même les morts retrouvent la vie, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Mais pour lui, Jean-Baptiste en prison, pas de miracle autour de moi. Le changement n'est pas pour maintenant. En tout cas, pas pour moi. Jésus ne le délivre pas. Lui qui devrait prendre les rênes, le pouvoir du royaume, ce serait la première chose de libérer les prisonniers politiques. Jésus ne fait rien de cette sorte. Pas de changement dans sa propre vie. Jésus n'ouvre pas les portes de la prison. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a cru en lui? Qu'est-ce qu'il a cru en lui? Jean-Baptiste éprouve de l'embarras, de l'inquiétude et des doutes par rapport à Jésus. Et si c'était moi qui s'est trompé? En voyant en Jésus de Nazareth, l'envoyé de Dieu. Et si c'était moi qui ai dit, trop vite, regardez l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Et si c'était mon regard sur Jésus qui était fausse, qui était faux. Au début du ministère de Jésus, Jean a vu en lui, effectivement, l'envoyé de Dieu. Et il a proclamé haut et fort et publiquement. Et maintenant, Jésus ne fait pas comme lui. Il est si différent comme il avait imaginé la venue du Messie. Au fur et à mesure que le temps passe, il s'interroge. Au fur et à mesure où le temps passe, il se demande, est-ce que je n'ai pas commis une erreur de mettre toute ma confiance en Jésus de Nazareth. Jésus, en effet, il ne vit pas, il ne se conduit pas, il ne s'exprime pas comme Jean-Baptiste l'a fait. Jésus, il reste plutôt discret. Il ne s'impose pas avec éclat. Il fréquente, au contraire, des gens douteux, des péagers, il fréquente les païens, il fréquente les pécheurs avec une vie scandaleuse. Il ne mène pas une vie d'asquète comme Jean-Baptiste l'a fait. Au contraire, Jésus, il boit et Jésus, il mange. Il est toujours à table et toujours avec les mêmes personnes scandaleuses. Moi, en tant que Jean-Baptiste, je dirais, séparez-vous du monde mauvais et tournez-vous avec une vie transformée vers Dieu. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait rien de ça. Où est le changement, la radicalité, la séparation entre le bien et le mal? Pourquoi Jésus n'est pas aussi dur que moi je l'étais avec les pécheurs? Pourquoi Jésus est tellement différent? au lieu de les menacer de ne pas pouvoir participer au royaume, de ne pas appeler le châtiment de Dieu sur eux, Jésus leur parle du pardon. Et en plus, il déclare les pécheurs pardonnés. Et même ceux qui disent, voilà, on voudrait changer de vie, il les déclare sauvés. Ils n'ont rien prouvé, ces gens-là. Bref, Jésus ne se comporte pas du tout en Messie. La démarche de Jean traduit son trouble intérieur, mais aussi sa façon d'insatisfaction. Et il se demande vraiment qui est Jésus, et il ne sait pas quoi penser de lui. Vous connaissez des situations où vous n'avez pas su penser quoi que ce soit de ce que vous arrive? Comment vous devez interpréter telle et telle situation, tel et tel comportement? Vous ne comprenez pas de ce que vous arrive vous-même, et pourtant vous priez Dieu, vous êtes enfant de Dieu. C'est plutôt l'enfer qui vous tombe sur la tête, parce que la crainte des Français, c'est que ce soit le ciel, hein, qui leur tombe sur la tête. L'épisode que raconte notre texte illustre bien cette ambiguïté qui est celle de Jean-Baptiste. Donc il envoie ses disciples. Qu'il pose la question que lui-même ne peut pas poser, parce que lui, il est dans les chaînes. Démarche d'ailleurs toujours curieuse et étonnante, puisque Jean l'avait publiquement reconnu, fils de Dieu et Messie. Mais maintenant, il faut reposer la question. Les amis, c'est tout à fait naturel. Ne jetons pas la pierre à Jean le Baptiste, qui est dans le trouble et qui ne comprend rien de ce qui lui arrive. De temps à autre, nous devons nous arrêter et peut-être reposer les vraies questions importantes. Soit pour entendre de nouveau les réponses que nous donne la parole de Dieu, la réponse que nous donne le Saint-Esprit, ou d'avoir une confirmation que c'est toujours bon ce que je crois. Ma confiance est toujours bonne à ce que je la donne, que je la confie à Dieu. Parfois, il faut s'arrêter. Au certain moment, on nous arrête, tout court, qu'on n'a pas choisi, mais qui nous arrête, et on repose la question. Parfois dans le doute, parfois dans l'incertitude. Que signifie donc cette question? Comment l'interpréter? Pour quelle raison? Et dans quel esprit? Et dans quel but? Jean le Baptiste la pose-t-il? Jésus, est-ce que tu es celui qui doit venir? Ou est-ce que nous devons encore attendre un autre? Vous, à la place de Jésus, qu'est-ce que vous auriez répondu à Jean? Qu'est-ce que vous auriez répondu? Voilà la réponse de Jésus qui est intéressante et étonnante aussi à la fois. On ne trouve dans la réponse de Jésus aucune déclaration « Mon gars, sois tranquille, je suis le Messie que tu as annoncé et qui est venu. » C'était ça sa réponse? Non, il n'a pas confirmé qu'il était le Messie. Réponse étonnante. Jésus les répond par deux manières. La première, il va renvoyer le prophète au prophète. Le prophète Jean le Baptiste, il sera référé au prophète d'Isaïe. Par une citation de l'épître 35, des versets 5 et 6, Jésus lui répond. Regarde. Regarde, les aveugles voient. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent de nouveau, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus cite texto les signes qui vont accompagner la venue du Messie. Il y a 600 ans déjà de cela, par le prophète Isaïe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les épreuves sont purifiées, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce que moi j'aurais fait aussi. On ouvre la Bible ensemble, et on regarde de près de ce que voudrait dire la parole de Dieu dans la situation qui est la nôtre. Est-ce que vous lisez la Bible aussi avec ce questionnement? Dieu, qu'est-ce que tu voudrais me dire? Comment voudrais-tu répondre à mes questions? J'en ai des tonnes actuellement. Et puis, la deuxième façon par laquelle Jésus répond, après les textes prophétiques qui lui rappellent, mais regarde aussi les faits, ce qui se fait. Parce que écrire et dire, oh, tout le monde, il y a des tonnes de paroles qui circulent. Mais ce qui vraiment compte, c'est quand la parole rencontre une action. Quand une parole s'avère vraie, véritable, qui se transforme en lettre, de lettre et de son, en action concrète de la vie. L'action de Jésus modifie certainement pas les structures du monde. Non, c'est pas le royaume de Dieu qui s'installe parce que Jésus dit avec moi, les anciens temps sont finis, à partir d'aujourd'hui, un autre règne, et vous allez voir, elle va être installée dès maintenant. Non. On regarde le monde, qui était toujours comme hier encore. Jésus ne change pas les structures du monde. Jésus n'instaure pas le royaume de Dieu d'une manière visible et politique. Tout était encore comme hier. Mais l'action de Jésus dans ce monde commence à changer les cœurs et les consciences, les existences même des personnes qui viennent vers lui se confier en lui, qui commencent à lui croire, à mettre leur confiance en lui, qui vont le suivre comme disciples. Leur vie est transformée. Regarde, c'est pas le monde que je change, mais je change les personnes dans ce monde. Et à travers ce changement, le royaume de Dieu s'installera. Jésus cherche à rassurer Jean le Baptiste qui se voit ébranler dans ses convictions de qu'est-ce qu'il doit encore croire. Voilà verset 4 que Jésus dit à ses deux émissaires qui viennent à la place de Jean poser la question, est-ce que c'est toi que nous devons attendre? Ou est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Et quand? Jésus les renvoie vers Jean le Baptiste en disant, allez annoncer à Jean tout ce que vous avez entendu et surtout ce que vous avez vu. Les envoyés, les disciples de Jean deviennent oreilles et yeux pour celui qui n'entend plus et qui ne voit plus, afin qu'il entende de nouveau et qu'il voit de nouveau ce qui se passe. Donc Jésus les invite à témoigner, certes, mais plus fondement encore, à regarder et à écouter. C'est-à-dire à discerner, à percevoir ce qui se passe. Regarde, Jean, il se passe des choses, peut-être pas comme toi tu l'avais imaginé, ou souhaité, ou espéré. Mais je suis dans l'action du royaume que toi-même tu as annoncé et que je suis en train d'établir. De la même manière, nous sommes invités dans les temps où nous sommes perdus, quand nous sommes troublés, quand nous marchons dans l'incertitude et on cherche la lumière dans les ténèbres ou dans le brouillard dans lequel nous sommes, de la même manière, nous devons observer et nous faire à partir de là une opinion personnelle, de ne pas regarder les circonstances, mais plutôt me dire, mais comment ça me parle à moi? Comment Dieu et l'Esprit parlent à moi? Je regarde moi les circonstances, je me fais tout lui, et surtout j'ouvre grand les yeux. Qu'est-ce que Jésus voudrait me dire? Les textes bibliques et les faits réels ne suffisent pas si nous ne sommes pas nous-mêmes attentifs. On peut te venir avec des arguments. On peut t'encourager par des témoignages. Si ton cœur n'est pas prêt, si tu voudrais pas ouvrir tes yeux, tu voudrais garder ton propre regard, tu voudrais rester dans tes propres convictions. Je m'en fous ce que je vous pensez, ce que vous avez vu et ce que vous croyez. Moi, je suis mal. Si vous ne vous rendez pas attentif vous-même, même ce que dit la parole de Dieu, et même les témoignages de vos frères et sœurs, passent à côté. Si nous avons le sentiment que tout ce qui se passe dans l'action de Dieu nous ne concerne pas, ça concerne que des autres. Si nous ne savons pas découvrir et recevoir ce qu'ils ont à nous apporter, la parole et les faits, l'action de Dieu. Oui, nous pouvons lire les écrits sublimes de la Bible, assister à des événements extraordinaires, côtoyer les superbes pasteurs qui parlent avec une sagesse extraordinaire, non, c'est pas moi, ce sont d'autres, des saints, sans vous laisser émerveiller, émouvoir, sans vous laisser déranger, sans vous laisser interpeller, sans que ces choses puissent nous toucher dans notre existence. On ne reçoit rien du tout. Et pourtant, la parole parle. Et si on avait des yeux pour voir, on verrait. Donc Jésus invite les disciples de Jean à s'ouvrir à ce qui se passe, à être attentifs de ce qui les entoure, et surtout à s'engager personnellement à partir de ce témoignage, à prendre parti de quoi ils sont témoins et expérimenter eux-mêmes la puissance du Saint-Esprit et apporter tout cela à Jean le Baptiste en prison. Voilà, depuis 2000 ans, Jésus n'a pas cessé à transformer des vies, à changer des existences. Son action puissante parmi les hommes s'expérimente. Nombreux sont celles et ceux parmi nous qui peuvent en témoigner d'avoir fait cette expérience qui tient encore dans nos jours. Oui, nous faisons partie de ces malheureux dont la Bible parle. Mais Jésus nous soulage de notre malheur. Oui, nous sommes parfois comme ces aveugles dont parle le texte, à qui est donné de voir la lumière divine de nouveau. Oui, parfois, on doit reconnaître que nous sommes comme des sourds à qui Dieu fait entendre de nouveau sa parole. Ou ces infirmes à qui nous ressemblons et qui se mettent de nouveau à marcher sur le chemin du Seigneur. Oui, on reconnaît, oui, nous faisons partie même des souillés qui sont purifiés par la grâce de Dieu. Et oui, parfois on ressemble beaucoup à des morts. Mais que Jésus ressuscite et fait vivre de nouveau. Oui, nous sommes les pauvres à qui est annoncée la parole de Dieu. Ne prenez pas mal la question que je vous pose. Est-ce que vous connaissez bien Jésus? Qu'est-ce que vous connaissez de lui? Qu'est-ce que vous savez de lui? Vous avez fait le tour? Vous l'avez déjà entièrement compris? Moi, je reste émerveillé devant Jésus. Je connais bien volontiers. Je te connais, mais parfois j'ai l'impression que je ne te connais pas assez. Ou je te connais pas de cette manière-là. Peu importe les titres à lui donner à ce Jésus, les définitions dogmatiques que nous faisons en outre, les conceptions traditionnelles et novatrices qu'on nous propose de qui est Jésus. Ce qui seul compte, c'est de voir et d'expérimenter ce qu'il fait dans notre vie. Comme quelqu'un disait, Jésus nous aide. Jésus nous aide à vivre. Il nous apprend. Il nous apprend à aimer. Il nous appelle. Il nous appelle à servir. Et il nous ouvre. Il nous ouvre à l'éternité. C'est en cela seul que se trouve l'essentiel. Et Jésus donne un dernier encouragement à son prophète dans les chaînes, en prison. Heureux celui qui ne perdra pas sa foi à cause de moi. Pour ça, j'ai choisi le titre Jésus, tu me fais perdre la foi. Et dans les groupes de maison, nous lisons actuellement les béatitudes qui commencent dans la première partie. Heureux ceux et celles qui, n'est-ce pas? Et Jésus reprend cette béatitude. Heureux celui, béni sera la personne. Béni sera la personne qui ne perdra pas sa foi parce qu'elle ne comprend pas. Tout à fait ou pas du tout. Ou plus du tout. Ou pour le moment. Heureux celui et celle qui ne perdront pas leur foi à cause de moi. Le texte ne parle pas de la réponse de Jean le Baptiste. Qu'est-ce que vous aurez entendu, cru, dit, pensé à la réponse par les témoignages que les disciples de Jean lui emmènent et lui racontent en cellule. Mettez-vous à la place de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous aurez fait? Et ce silence que vous entendez, c'est exactement dont la Bible parle. La Bible nous donne aucune idée, ne parle pas de la réponse de Jean le Baptiste. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce témoignage? Dans ses troubles, dans son incompréhension, dans son incertitude, peut-être même dans sa colère, que Jésus, visiblement pour lui, n'était pas celui qu'il attendait de cette manière-là. Les silences dans la Bible, on en trouve régulièrement. Où on ne sait pas ce que les gens ont fait avec le témoignage. Mais ces silences dans la Bible sont très bénéfiques. Vous savez pourquoi? Pour laisser la place à ta réponse à toi. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais cru? À la place de la personne dont nous ne connaissons pas la suite de sa réaction. Et la suite de la réaction sera cette fois-ci la tienne. Et toi, qu'est-ce que tu aurais pensé et cru à la place de Jean-Baptiste? J'en viens terminer pour donner ma réponse à la question. Jésus, est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce que nous devons encore attendre un autre? Pour moi-même, je fais mon choix. Pour moi-même, j'ai répondu. Jésus, tu es celui qui devait venir et tu es venu. Tu es venu dans ma vie. Je le sais. À la fois, la parole m'en parle et ce que j'expérimente, c'est exactement ce qui était prédit, ce qui était promis. Jésus, je t'expérimente. Je sais que tu es venu dans ma vie. Est-ce que tu pourrais le dire de la même manière? Est-ce que tu as aussi cette certitude que Jésus est venu et il n'est pas simplement venu parce qu'il devait venir, mais qu'il est venu pour toi? Et s'il était venu que pour toi, tu l'aurais accueilli? Tu l'accueilles? Je t'invite à la prière. Seigneur Jésus, si tu es venu vers moi, c'est moi maintenant qui viens vers toi. Je sais que je suis un pécheur. Et je ne peux pas me sauver tout seul. Tu es venu vers moi et je viens vers toi. J'ai tant besoin de toi dans ma vie. Si souvent je n'arrive pas à conduire moi-même, ni ma vie d'ailleurs. J'éprouve ce grand vide dans ma vie que seul toi peux combler. Si toi tu es venu, moi je viens au pied de la croix, de ta croix, et je viens me soumettre et te soumettre ma vie. Pardonne-moi mes péchés et lave-moi par ton sang précieux, ce sang sans tache qui fut versé pour moi sur la croix de Golgotha. Parce que je sais que tu es venu vers moi, je t'ouvre la porte de mon cœur. Jésus, viens et entre dans ma vie. Je te confesse de ma bouche et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Et parce que tu es venu dans ma vie, je sais, en toi, je suis quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que tu es venu dans ma vie, moi je suis devenu enfant de Dieu, lavé par ton sang précieux et purifié de tout mon péché et de toute ma culpabilité. Je suis désormais une nouvelle créature parce que tu es venu dans ma vie. Les choses anciennes vécues sans toi sont du passé désormais. Et je déclare par la foi. Et je le dis haut et fort à quiconque veut l'entendre, que toute alliance que j'avais faite avec le diable, consciemment ou inconsciemment, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Tu es venu dans ma vie. Les choses anciennes ont disparu. Voilà ce qui est nouveau est déjà là. Et c'est pour cela que je voudrais vivre que pour toi. Je te remercie, Seigneur, pour ta justice divine qui s'est exercée sur ma vie, pour ta paix et ta joie qui remplissent ma vie maintenant et à jamais. Je viens à toi parce que tu es venu à moi. Je viens à toi et je te reçois. Au nom de Jésus, je dis Amen.